VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, midi à Kinshasa, la capitale de la RDC, qui avait des allures de ville morte aujourd'hui. La bouillante mégapole de 10 millions d'habitants qui était quadrillée par les forces de la police et de la garde républicaine. Elle était l'ombre d'elle-même, d'après l'AFP, grande avenue vide, avec une circulation presque inexistante par crainte de violence suite à l'annonce de la suspension de la médiation épiscopale entre pouvoir et opposition. Avant l'ouverture du second dialogue, la coalition du rassemblement constituée autour de l'opposant, Étienne Tshisekedi avait menacé de jeter la population dans la rue le 19 décembre dans tout le pays pour chasser M. Kabila du pouvoir en cas d'échec des négociations. Mais le rassemblement n'a donné aucun mot d'ordre en ce sens après la suspension des discussions. Pour autant, un fossé sépare la mouvance présidentielle et le rassemblement. Félix Tshisekedi du rassemblement explique les points de divergence.
Sur la constitution, le rassemblement et le front constatent qu'il subsiste des divergences profondes concernant la fin du mandat du président de la République, le fonctionnement des institutions après le 19 décembre 2016, l'engagement des parties prenantes à ne pas réviser la constitution dans ses dispositions verrouillées par l'article 220 ou de changer de constitution, l'engagement du président Kabila à ne pas briguer un troisième mandat. Sur le processus électoral, aucun accord n'a été trouvé concernant la séquence des élections, le calendrier électoral ainsi que la restructuration de la CENI. S'agissant particulièrement de l'élection présidentielle, le Rassemblement et le Front soutiennent que celle-ci peut se tenir et doit se tenir impérativement en 2017. Le Rassemblement et le Front note que toutes les propositions constructives qu'ils ont avancées pour résoudre tous les points de divergence ont été systématiquement rejetées par les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine.
Félix Tshisekedi, propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM. Les négociations sous l'égide des évêques en RDC sont destinées à permettre l'instauration d'une période de transition politique associant le pouvoir et l'opposition jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Elles n'ont avancé sur aucun des points de contentieux les plus importants et sont censées reprendre mercredi. Écoutez ce que pensent les Kinois de la situation politique dans leur pays.
Nous, le peuple, on a encore une chose à faire par rapport à la date du 20 décembre. Nous ne regardons pas la CENCO, nous ne regardons pas les dialogues inclusifs. C'est le peuple qui va décider à la date du parti du 20 décembre. Si Joseph Kabila mettait toujours le pouvoir. Nous, le peuple congolais, nous n'avons pas délégué des gens là-bas.
Mais non, la ville n'est pas, et roule pas comme d'habitude parce qu'il y a des intimidations partout. Vous voyez, dans tous les points chauds de la capitale, il y a la police, le service de sécurité, les camions anti-émeutes qui sont là, il y a des gyrophares, tout moment. C'est l'intimidation. Si le pouvoir en place a les deux pieds sur terre, qu'il laisse l'intimidation. Et le peuple va s'y prendre en charge. Tout peut changer à n'importe quel moment. Parce que Moussa Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, nous avait dit une chose. Prenez-vous en charge. Parce que quand Mobutu est parti du pouvoir, il n'y avait pas l'Internet.
Micro-traitoir réalisé à Kinshasa par Charlie Kassereka.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, plus de 6,2 millions d'électeurs ont voté dimanche pour choisir 255 députés sur 1337 candidats à l'opposition qui avaient boycotté les législatives de 2011, espèrent faire un retour au Parlement ivoirien. Et les indépendants, qui sont nombreux, espèrent faire une percée. Les Ivoiriens sont dans l'attente des résultats officiels proclamés par la Commission électorale indépendante, la CEI. Le président gambien Yahya Jammeh sera déclaré renégat s'il refuse de céder le pouvoir, a déclaré Alifa Salah, le porte-parole de la coalition d'opposition qui a porté le président élu Adama Barrow au pouvoir. M. Jammeh, qui gouverne la Gambie d'une main de fer depuis 22 ans, a rejeté les résultats de ce scrutin une semaine après avoir pourtant reconnu sa défaite. D'après le président ivoirien Alassane Ouattara, Adama Barrow sera investi le 19 janvier prochain. Réuni à Abuja, le sommet de la CEDEAO a appelé le président Yahya Jammeh à reconnaître sa défaite sans énoncer de mesures de rétorsion pour l'obliger à quitter le pouvoir. Au Soudan, l'opposition a relancé son mot d'ordre de grève contre les réductions de subventions aux carburants. Le parti d'opposition Ouma appelle à la désobéissance civile aujourd'hui. Le président soudanais Omar al-Béchir avait prévenu que toute tentative visant à renverser son régime serait sévèrement réprimée. On va au Niger maintenant pour parler de culture, tenue le week-end dernier à Agadez, aux portes du désert, de la 10e édition du Festival international de la mode africaine FIMA, du célèbre créateur nigérien Alpha Di. Elle a regroupé des créateurs et mannequins venus d'un peu partout dans le monde. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Sur les deux jours du festival, des mannequins venus d'une trentaine de pays ont défilé dans la joie.
Je suis Tamakloé Edna du Togo. Je suis contente de participer au 10e édition de FIMA.
Je m'appelle Ousmane Diop du Sénégal. C'est ma première fois ici au FIMA et je suis vraiment content d'être là, de voir toute l'Afrique se réunir, faire la fête, faire le FIMA. Je suis vraiment content.
Ils étaient une centaine, habillés par des créateurs et stylistes tout aussi lointains que divers.
Flaminia Meshulam de Londres. Je fais une collection de femmes prêtes à porter. Il y a des robes, mais il y a aussi des pantalons et c'est assez relax.
Karen Yaoumra, je suis styliste modéliste de nationalité ivoirienne. Ma collection, c'est une collection de 8 vêtements, dont 5 hommes et 3 femmes. Donc dans le style tout blanc, avec des motifs très colorés qui ont été peints par moi. Donc c'est de la peinture textile sur tissu.
Cette 10e édition du Festival international de la mode africaine devait se tenir en 2015 à Niamey, mais elle a été reportée à cette année pour des raisons sécuritaires. Qu'elle se soit tenue à Agadez, ville frontalière de l'Algérie et de la Libye, réjouit à plus d'un titre les autorités nigériennes. Assoumana Malam Issa est le ministre de la Culture.
Un sentiment de satisfaction qu'elle se tienne au moment où nous sommes en train de faire les festivités du 18 décembre et au moment où on pense à travers le monde que le Niger est un pays insécure, mais que voilà, nous sommes en train de démontrer que Agadez et le Niger sont en paix malgré les menaces qui sont réelles, qu'il ne faut pas ignorer. Et nous avons donc le sentiment d'avoir réussi un pari.
20 ans après la première édition, le FIMA revient donc à Agadez, aux portes du désert où il est né. Sedna Ali, dit Alpha Di, est le promoteur.
C'est un festival créé pour le désert. Aujourd'hui, il est revenu ici, donc c'est une image extraordinaire. En plus, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que je viens d'être nommé depuis un an comme artiste pour la paix de l'UNESCO et la ville d'Agadez est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour moi, ça n'a pas de prix.
Abdullah Razak Idrissa, du retour d'Agadez pour VOA Afrique.
Merci Abdul Razak. L'assassinat jeudi à Sfax d'un ingénieur tunisien attribué par le mouvement islamiste palestinien Hamas à Israël faisait toujours des remous aujourd'hui en Tunisie, où la presse déplorait une atteinte à la souveraineté nationale. La branche armée du Hamas a affirmé samedi que l'État hébreu était responsable du meurtre de Mohamed Zawahiri, âgé de 49 ans, décrit comme un dirigeant du mouvement spécialisé dans le développement de drones. Le gouvernement tunisien a indiqué dimanche que des éléments étrangers étaient impliqués dans l'opération et exprimé son engagement à protéger tous ses citoyens et à poursuivre les coupables à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une réunion sécuritaire sur le dossier avait eu lieu ce matin à Tunis autour du chef du gouvernement Youssef Chahed en présence des ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le collège électoral, une particularité américaine, doit de manière quasi certaine désigner aujourd'hui Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Les 538 grands électeurs se réunissent dans chacun des 50 États américains pour désigner le président et le vice-président américain. Donald Trump a gagné 306 grands électeurs et une nette majorité face à sa rivale démocrate Hillary Clinton qui a engrangé plus de voix au vote populaire. Ce sera donc une simple formalité. M. Trump, qui sera élu 45e président américain, le résultat final pourrait ne pas être connu aujourd'hui car les États-Unis ont un délai de plusieurs jours, les États ont un délai de plusieurs jours pour communiquer leurs chiffres officiels. Et puis, pour terminer, plus de 3000 personnes ont pu quitter le secteur rebelle d'Alep assiégé par le régime syrien avant le vote attendu d'une résolution de l'ONU qui permettrait de superviser ces évacuations. Le vote a lieu aujourd'hui à New York à 14h GMT. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans exactement 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque qui vous rejoindra. Pour ma part, je vous dis bon après-midi partout où vous êtes sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.